Le capital sans les notes. Livre 1er, 8e section, chapitre 30. Contre-coup de la révolution agricole sur l'industrie, établissement du marché intérieur pour le capital industriel. L'expropriation et l'expulsion, par secousse toujours renouvelée des cultivateurs, fournit, comme on l'a vu, à l'industrie des villes, des masses de prolétaires recrutées entièrement en dehors du milieu corporatif, circonstance heureuse qui fait croire au vieil Anderson, ouvrez la parenthèse, qu'il ne faut pas confondre avec James Anderson, fermez la parenthèse, dans son « Histoire du commerce », à une intervention directe de la Providence. Il nous faut nous arrêter un instant encore à cet élément de l'accumulation primitive. La raréfaction de la population campagnarde composée de paysans indépendants cultivant leurs propres champs n'entraîna pas seulement la condensation du prolétariat industriel, de même que, suivant l'hypothèse de Geoffroy Saint-Hilaire, la raréfaction de la matière cosmique sur un point en entraîne la condensation sur un autre. Malgré le nombre décroissant de ces cultivateurs, le sol rapporta autant et même plus de produits qu'auparavant, parce que la révolution dans les conditions de la propriété foncière était accompagnée du perfectionnement des méthodes de culture, de la coopération sur une plus grande échelle, de la concentration des moyens de production, etc. En outre, les salariés agricoles furent astreints à un labeur plus intense, tandis que le champ qu'ils exploitaient pour leur propre compte et à leur propre bénéfice se rétrécissait progressivement, le fermier s'appropriant ainsi de plus en plus tout leur temps de travail libre. C'est de cette manière que les moyens de subsistance d'une grande partie de la population rurale se trouvèrent disponibles en même temps qu'elle et qu'ils durent figurer à l'avenir comme élément matériel du capital variable. Désormais, le paysan dépossédé dut en acheter la valeur sous forme de salaire de son nouveau maître, le capitaliste manufacturier, et il en fut des matières premières de l'industrie provenant de l'agriculture comme des subsistances. Elles se transformèrent en éléments du capital constant. Figurons-nous, par exemple, une partie des paysans westphaliens qui, du temps de Frédéric II, filaient tout le lin, brusquement expropriés du sol, et la partie restante convertie en journalier de grandes fermes. En même temps, s'établissent des filatures et des tissanderies de dimensions plus ou moins considérables, où les ci-devant paysans sont embauchés comme salariés. Le lin ne paraît pas autre que jadis, pas une de ses fibres n'est changée, mais une nouvelle âme sociale s'est, pour ainsi dire, glissée dans son corps. Il fait désormais partie du capital constant du maître manufacturier. Réparti autrefois entre une multitude de petits producteurs qui le cultivaient eux-mêmes et le filaient en famille par petites fractions, il est aujourd'hui concentré dans les mains d'un capitaliste pour qui d'autres filent et tissent. Le travail supplémentaire dépensé dans le filage se convertissait autrefois en un supplément de revenus pour d'innombrables familles de paysans, ou, si l'on veut, puisque nous sommes au temps de Frédéric, en impôt pour le roi de Prusse, entre guillemets. Il se convertit maintenant en profit pour un petit nombre de capitalistes. Les rouets et les métiers, naguère dispersés sur la surface du pays, sont à présent rassemblés dans quelques grands ateliers-casernes, ainsi que les travailleurs et les matières premières. Et, rouets, métiers et matières premières, ayant cessé de servir de moyens d'existence indépendantes à ceux qui les manœuvrent, sont désormais métamorphosés en moyens de commander des fileurs et des tisserands et d'en pomper du travail gratuit. Les grandes manufactures ne trahissent pas à première vue leur origine comme les grandes fermes. Ni la concentration des petits ateliers dont elles sont sorties, ni le grand nombre de petits producteurs indépendants qu'il a fallu exproprier pour les former, ne laissent de traces apparentes. Néanmoins, l'intuition populaire ne s'y laisse point tromper. Du temps de Mirabeau, le lion révolutionnaire, Les grandes manufactures portaient encore le nom de « manufactures réunies », entre guillemets, comme on parle à présent de « terres réunies », entre guillemets. Mirabeau dit, ouvre les guillemets. On ne fait attention qu'aux grandes manufactures, où des centaines d'hommes travaillent sous un directeur et que l'on nomme communément « manufactures réunies ». Celles où un très grand nombre d'ouvriers travaillent chacun séparément et chacun pour son propre compte sont à peine considérées. On les met à une distance infinie des autres. C'est une très grande erreur, car les dernières font seules un objet de prospérité nationale vraiment importante. Point de suspension. La fabrique réunie enrichira prodigieusement un ou deux entrepreneurs, mais les ouvriers ne seront que des journaliers plus ou moins payés. Ils ne participeront en rien au bien de l'entreprise. Dans la fabrique séparée, au contraire, personne ne deviendra riche, mais beaucoup d'ouvriers seront à leur aise. Les économes et les industrieux pourront amasser un petit capital, se ménager quelques ressources pour la naissance d'un enfant, pour une maladie, pour eux-mêmes ou pour quelqu'un des leurs. Le nombre des ouvriers économes et industrieux augmentera parce qu'ils verront dans la bonne conduite, dans l'activité, un moyen d'améliorer essentiellement leur situation, et non d'obtenir un petit rehaussement de gage qui ne peut jamais être un objet important pour l'avenir et dont le seul produit est de mettre les hommes en état de vivre un peu mieux, mais seulement au jour le jour. Point de suspension. Les manufactures réunies, les entreprises de quelques particuliers qui soldent des ouvriers au jour la journée pour travailler à leur compte, peuvent mettre ces particuliers à leur aise, mais elles ne feront jamais un objet digne de l'attention des gouvernements. Fermez les guillemets. Ailleurs, ils désignent les manufactures séparées, pour la plupart combinées avec la petite culture, comme « les seuls libres », entre guillemets. S'il affirme leur supériorité comme économie et productivité sur les fabriques réunies, entre guillemets, et ne voit dans celles-ci que des fruits de serre gouvernementale, cela s'explique par l'état où se trouvaient alors la plupart des manufactures continentales. Les événements qui transforment les cultivateurs en salariés et leurs moyens de subsistance et de travail en éléments matériels du capital crée à celui-ci son marché intérieur. Jadis, la même famille paysanne façonnait d'abord, puis consommait directement, du moins en grande partie, les vivres et les matières brutes, fruits de son travail. Devenus maintenant marchandises, ils sont vendus en gros par le fermier, auquel les manufactures fournissent le marché. D'autre part, les ouvrages tels que fil, toile, laineries ordinaires, etc., dont les matériaux communs se trouvaient à la portée de toute famille de paysans, jusque-là produits à la campagne, se convertissent dorénavant en articles de manufacture auxquels la campagne sert de débouché, tandis que la multitude de chalands dispersés, dont l'approvisionnement local se tirait en détail de nombreux petits producteurs travaillant tous à leur compte, se concentrent dès lors et ne forment plus qu'un grand marché pour le capital industriel. C'est ainsi que l'expropriation des paysans, leur transformation en salariés, amène l'anéantissement de l'industrie domestique des campagnes, le divorce de l'agriculture d'avec toutes sortes de manufactures. Et en effet, cet anéantissement de l'industrie domestique du paysan peut, seul, donner au marché intérieur d'un pays l'étendue et la constitution qu'exigent les besoins de la production capitaliste. Pourtant, la période manufacturière proprement dite ne parvient point à rendre cette révolution radicale. Nous avons vu qu'elle ne s'empare de l'industrie nationale que d'une manière fragmentaire, sporadique, ayant toujours pour base principale les métiers des villes et l'industrie domestique des campagnes. Si elle détruit celle-ci sous certaines formes, dans certaines branches particulières et sur certains points, elle la fait naître sur d'autres, car elle ne saurait s'en passer pour la première façon des matières brutes. Elle donne ainsi lieu à la formation d'une nouvelle classe de petits laboureurs pour lesquels la culture du sol devient l'accessoire et le travail industriel, dont l'ouvrage se vend aux manufactures, soit directement, soit par l'intermédiaire du commerçant, l'occupation principale. Il en fut ainsi, par exemple, de la culture du lin sous la fin du règne d'Élisabeth. C'est là une des circonstances qui déconcerte lorsqu'on étudie de près l'histoire de l'Angleterre. En effet, dès le dernier tiers du XVe siècle, les plaintes contre l'extension croissante de l'agriculture capitaliste et la destruction progressive des paysans indépendants ne cessent d'y retentir que pendant de courts intervalles, et en même temps, on retrouve constamment ces paysans, quoiqu'en nombre toujours moindre, et dans des conditions de plus en plus empirées. Exceptons pourtant le temps de Cromwell. Tant que la République dura, toutes les couches de la population anglaise se relevèrent de la dégradation où elles étaient tombées sous le règne des Tudors. Cette réapparition des petits laboureurs est en partie, comme nous venons de le voir, l'effet du régime manufacturier lui-même. Mais la raison première en est que l'Angleterre s'adonne de préférence tantôt à la culture des grains, tantôt à l'élève du bétail, et que ces périodes d'alternance embrassent les unes un demi-siècle, les autres à peine une vingtaine d'années. Le nombre des petits laboureurs travaillant à leur compte varie aussi, conformément à ces fluctuations. C'est la grande industrie seule qui, au moyen des machines, fonde l'exploitation agricole capitaliste sur une base permanente, qui fait radicalement exproprier l'immense majorité de la population rurale et consomme la séparation de l'agriculture d'avec l'industrie domestique des campagnes en extirpant les racines, le filage et le tissage. Par exemple, ouvrez les guillemets. Des manufactures proprement dites et de la destruction des manufactures rurales ou domestiques sort, à l'avènement des machines, la grande industrie lainière. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La charrue, le joug, fermez les guillemets, s'écrit Mr. David Urquhart, ouvrez les guillemets, furent l'invention des dieux et l'occupation des héros. Le métier à tisser, le fuseau et le rouet ont-ils une moins noble origine? Vous séparez le rouet de la charrue, le fuseau du joug, et vous obtenez des fabriques et des workhouses, du crédit et des paniques, deux nations hostiles, l'une agricole, l'autre commerciale. Fermez les guillemets. Mais de cette séparation fatale date le développement nécessaire des pouvoirs collectifs du travail et la transformation de la production morcelée, routinière, en production combinée scientifique. L'industrie mécanique consommant cette séparation, c'est elle aussi qui, la première, conquiert au capital tout le marché intérieur. Les philanthropes de l'économie anglaise tels que John Stuart Mill, Rogers, Goldwyn Smith, Fawcett, etc., les fabricants libéraux, les John Bright et consorts, interpellent les propriétaires fonciers de l'Angleterre comme Dieu interpella Caïn sur son frère Abel. « Où s'en sont-ils allés ? » s'écrit-il, « ces milliers de francs tenanciers, freeholders entre parenthèses. » « Mais vous-même, d'où venez-vous, sinon de la destruction de ces freeholders ? Pourquoi ne demandez-vous pas aussi ce que sont devenus les tisserands, les fileurs et tous les gens de métiers indépendants ?